Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. La vie est tellement pleine de surprises qu'on n'a parfois même pas le temps de les ouvrir. Tiens, si on m'avait dit qu'un jour je recevrais un ministre des Affaires étrangères pour parler de l'incarnation du mal dans une bande dessinée légendaire et qui plus est en compagnie de son fils, sans aucun doute enrôlé de force dans cette funeste entreprise, et qui s'est mis en tête de nous prouver que ce ténébreux personnage a bel et bien existé, oui, j'aurais certainement ri de ce rire sardonique type qui n'est pas sans rappeler celui des félons dans les films de KPDP en 1946, année de la première publication des aventures de Blake et Mortimer. Car oui, by Jove, c'est bien de cela dont il va s'agir aujourd'hui, et en particulier de l'abominable Ulrich, leur ennemi juré qui fait rien qu'à leur pourrir la vie tout au long de leur pérégrination. Si ça, c'est pas une surprise, hein. Et croyez-moi, pour tous ceux qui aimaient la BD, Edgar P. Jacobs en particulier, la ligne claire, en un mot comme en mille, cette époque où la BD avait l'ambition d'apprendre en distrayant, des surprises, ce n'est pas ce qui va manquer dans ce pop-up-up, où nous recevons donc les Védrine, père et fils, pour parler de leur passion commune. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Bonjour Hubert, bonjour Laurent Védrine.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à tous les deux dans notre studio. Recevoir un ministre des Affaires étrangères pour parler d'un héros malfaisant de bande dessinée, n'est-ce pas ça la pop culture? Nous allons essayer d'y répondre. À mes côtés, Charline Roux, qui, en tant que Picarde, s'est toujours sentie très proche de la ligne pas très claire. Bonjour Charline.
C'est vraiment parce que ça ressemble à une chanson de Bachung que je vous dis rien. Bonjour, okay, Antoine, bonjour,
bonjour
messieurs.
Bonjour. Au menu également de Pop Pop Pop, votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
Et tout de suite, un nouvel épisode de Brian Lalouse.
À siroter en fin d'émission et un point pop de notre chroniqueur Renan Cros, dans lequel il sera question de jeux vidéo. Mais avant ça, sachez messieurs qu'ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus angoissante que le rire sardonique dont je parlais. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors attendez, parce qu'avant de répondre, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses Edgar Jacobine, Ulrichienne, Védrinesque, parfois Védrinante, et parmi mes préférés, il y a celle, eh bien, d'un président de la République. Écoutez.
Bah, la pop culture, je pense que c'est celle que moi j'ai pratiquée assez jeune, mais qui ne m'a jamais lâché, c'est-à-dire la culture d'une forme de liberté, aussi bien sur les tons, les formes et les inventions. Donc, pour moi, être pop, c'est être d'abord populaire, c'est-à-dire capable de parler à tous et de le faire avec toutes les formes de liberté possibles.
Bien, on aura reconnu François Hollande. Et pour vous, Hubert Védrine?
Mais je vais vous étonner, j'aurais traversé quelques décennies déjà sans savoir ce que c'est, en fait.
Et il était temps.
Je ne sais pas si je serais éclairé aujourd'hui, mais je vois bien que plein de gens ont baigné là-dedans, mais je ne sais pas le définir. Mm-hmm. Il y a d'autres domaines auxquels je suis à peu près complètement étranger, comme le sport, par exemple, enfin le sport collectif, disons. Et donc, je ne sais pas très bien, mais j'entends comme si on me parlait avec une langue étrangère, mais je vois que beaucoup de gens ont vécu là-dedans. Alors, je sais pas, est-ce que c'est lié à l'aventure du rock? Est-ce que c'est lié
à... c'est lié à plein de choses. On parle d'une culture dans laquelle on baigne tous. Oui. Une culture de consommation qui touche à la fois l'image, le son, la littérature.
Et qui a rapport à l'enfance aussi, peut-être un peu.
Et à la BD, très nettement.
Enfin, pour moi, c'est un monde extérieur. Apparemment sympathique, rigolo, qui concerne les autres.
Alors, et pour l'autre génération, Laurent Védrine, ça représente quelque chose pour vous ou rien du tout non plus?
Eh ben, j'ai essayé de me poser la question rapidement, là, parce que c'est vrai que je ne m'interroge pas tout le temps non plus.
Oui, moi non plus, je vous rassure.
Alors, à vrai dire, j'ai envie de dire quelque chose. Moi, ça me fait penser aux bandes dessinées de Robert Crumb.
Oui, voilà. Très bien.
Moi, je pourrais résumer la pop culture.
C'est-à-dire une Amérique.
Ouais, une Amérique d'underground, contestataire, des comics des années 70 qui, moi, m'a intéressé, continue à m'intéresser. Et cette pop culture, pardon, cette pop culture-là, oui, me parle.
Ok, très bien. Bah, voilà une réponse qui me convient. Et vous, Charline? Bien, Charline a validé. Donc, nous avançons la pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, James Bond, c'est un autre espion anglais de légende, n'est-ce pas? Et c'est extrait du dernier album d'Iggy, qui s'appelle Free.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond.
James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond.
James Bond, Iggy Pop, et cet extrait de l'album Free. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un père et son fils venus nous parler de pop culture. Mais s'agit-il de...
Rodriguez, père et fils.
Non, Rodriguez, père et fils, je ne crois pas. Leur réponse avec leur pop portrait. Alors oui, un pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline Rourourourour. Oh.
Aujourd'hui, deux invités... Non, attendez, pardon, je vais faire un aparté. Antoine, oui. Je peux pas faire ça, moi. Vous êtes au courant du nombre de conneries que je suis capable d'énoncer à la minute. Oui. D'habitude, je peux vaguement faire illusion, un jeu de mots, une blagounette, un bruitage, une pirouette. Et en avant, nos invités ne m'en tiennent pas à rigueur. Enfin, pas trop. Le max du max des gens gradés dont j'ai dressé le portrait, c'est un juge, un Renaudot, un Goncourt et les Words Apart. Mais là, j'ai pas le niveau. Hein. Vous vous rendez compte? Un diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de la présidence de la République, il va voir que je suis pas compétente. En plus, il n'est pas venu seul, il est avec son fils. Mais ça va parce que son fils, il a étudié que le droit public et international, l'histoire, l'anthropologie, le journalisme et l'apiculture.
Vous êtes consciente qu'ils sont en train de vous écouter, là?
Non. Si. Ah. Aujourd'hui, dans Pop, 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 deux invités. Et je ne suis même pas impressionnée.
Ok, alors rien à voir donc avec les Rodriguez qu'évoquait Elie Semoun tout à l'heure.
C'est qui?
Non. Bah, c'est qui? Non. Bah, donc aucun rapport.
On est dans le CID?
Oui, c'est ça, c'est exactement dans le site.
Rodriguez, as-tu du cœur, la célèbre réplique.
Hubert, Laurent Védrine, il va peut-être être question des Rodriguez dans la séquence qui va suivre, c'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, Hubert Védrine, vous avez choisi « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, écrit de 1906 à 1922, publié de 1913 à 1927. Charline, notre rédacteur en chef Aurélien Esvan, insiste toujours, en tant que Cabourgeais, sur l'importance de Cabourg dans la recherche. Pouvez-vous lui rappeler celle prédominante de Trouville, s'il vous plaît, en un mot?
À la fin de l'été 1891, Marcel Proust a 20 ans et séjourne à Trouville, voilà. Oui, bien sûr, dans une demeure qui donne à la fois sur la mer et sur la campagne normande. Mais en 1907, alors qu'il était très malade, c'est à Trouville aussi que Marcel Proust cherche d'abord un lieu de repos, mais il préférera finalement le Grand Hôtel de Cabourg aux Roches Noires. Ce Grand Hôtel inspirera d'ailleurs le Grand Hôtel de Balbec de la Recherche. Maintenant, battez-vous la mafia Camembert.
Merci Hubert Védrine. Pardonnez-nous ces petites querelles intestines. Auriez-vous la courtoisie de nous en lire une de ces phrases qui peuvent couvrir une vingtaine de pages parfois?
Oui, alors moi je m'étais borné à dire la recherche, comme disait les snobs, ça vous dit la recherche, mais c'est vous qui avez choisi le passage.
Oui, bien sûr.
Donc je pense qu'il vous parle particulièrement.
Il est timé.
Alors je vais le lire puisque vous me le demandez.
Allez-y.
Swann était du reste aveugle en ce qui concernait Odette. Non seulement devant ses lacunes de son éducation, mais aussi devant la médiocrité de son intelligence. Bien plus, chaque fois qu'Odette racontait une histoire bête, Swann écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté, presque une admiration, où il devait entrer des restes de volupté. Tandis que, dans la même conversation, ce que lui-même pouvait dire de fin, même de profond, était écouté par Odette, habituellement sans intérêt, assez vite, avec impatience, et quelquefois contredit avec sévérité. J'ajoute une phrase qui est dans la recherche, qui est à la fin des fins, quand Swann se détache d'Odette, il dit... Tout ça pour une femme qui n'était pas mon genre. Un genre au sens du jargon moderne.
Oui, oui, oui. Cette recherche, c'est quoi? C'est votre Madeleine, si je puis dire? C'est le livre auquel vous revenez toujours?
Mais c'est votre jeu à vous. Vous dites un livre.
Ouais.
Moi, je voudrais en citer 50.
Ouais. Vous citez celui-là.
Si j'avais à partir sur une déserte, je ferais comme Tesson au bord du lac Baïkal. J'aurais une grosse malle bourrée de livres. Donc j'ai mis celui-là.
Bon, mais celui-là, il a une importance particulière quand même à vos
yeux. Oui, parce qu'on n'arrive jamais au bout, en fait.
Ouais.
Alors si je prenais un grand livre de Camus que j'adore, des choses comme ça, bon, on peut le lire du début à la fin. La recherche est une espèce de jungle dans lequel on repénètre périodiquement, on se perd, on va jamais jusqu'au bout, donc on recommence. Voilà.
C'est un livre d'explorateur.
C'est un livre d'explorateur qui tourne en...
qui tourneront très bien. Laurent Védrine, à votre tour, pour le film, vous avez choisi F for Fake, vérité et mensonge en VF, le long-métrage semi-documentaire franco-germano-iranien d'Orson Welles, réalisé en 1973. Charline, d'où venait la fascination d'Orson Welles pour le bobard et la mystification? Vous avez 30 secondes.
Peut-être de son coup d'essai, coup d'éclat à la radio, la guerre des mondes racontée sur CBS et qui aurait causé un vent de panique à travers les États-Unis, les auditeurs croyant qu'il s'agissait véritablement d'une attaque extraterrestre en cours. Dans le documentaire, en l'occurrence, vérité et mensonge, on voit Orson Welles dans la gare d'Austerlitz, habillé en magicien et annonçant qu'il va dire toute la vérité sur Elmir de Horry, l'un des plus grands faussaires.
Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies.
The important distinction to make when you're talking about the genuine quality of a painting is not so much whether it's a real painting or a fake. It's whether it's a good fake or a bad fake.
F for fake, c'est une punchline qui pourrait tout à fait coller à notre époque, non?
En tout cas, ça colle peut-être à Ulrich.
Ouais.
Parce que finalement...
Le héros de votre livre.
Le héros de la biographie qu'on a écrit. Et à notre époque, qui sait, moi je m'intéresse pas beaucoup à tous ces termes qui parlent de fake, de déféqué, de je sais pas, de vérification des faits, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'abreuve et est un peu fasciné comme ça par toutes ces informations qui circulent. En tout cas, Orson Welles, dans ce film, de mon point de vue, a fait une leçon magistrale de comment on fait des histoires, comment on écrit des histoires.
Comment on fabrique.
On fabrique, comment on raconte, comment on met en scène, comment on met... en nom de des histoires, et il réalise ce film au moment où plus aucun studio hollywoodien ne veut de lui, il est complètement ruiné, et pour moi c'est un film absolument magistral, parce qu'on sait pas ce qui se passe, on sait pas comment ça se passe, il y a des mises en abîme en permanence, et j'aime beaucoup ce genre de vision du monde.
Sauf que l'époque où parle Orson Welles, c'est l'histoire où il fabrique ses histoires, n'a que peu de points communs avec la nôtre, où on fabrique des histoires à nouveau mais autrement, en les faussant dès le départ.
Vous croyez vraiment qu'à quelques décennies près, le monde a changé?
Les moyens de communication ont changé beaucoup.
Ouais, mais ça c'est une vue de l'esprit, parce qu'on a une vue assez courte, mais si on regarde d'un point de vue historique, ça change pas beaucoup.
D'accord. Alors, Hubert Védrine, je reviens vers vous pour la série direction l'agence de pub de Madison Avenue, car vous choisissez Mad Men, la série créée par Matthew Weiner et diffusée entre le 19 juillet 2007 et le 17 mai 2015 sur AMC. Charline, ces Mad Men vous ont-ils rendu aussi folle vous aussi, et si oui, pourquoi?
Bon, c'est-à-dire que ça ressemble en quelque sorte à ma vie de bureau, hein, des messieurs très bien habillés qui prennent des décisions et qui travaillent pendant que les dames jouent les secrétaires, servent des cafés. Enfin, les choses pourraient bien changer, méfiez-vous.
Une époque qui vous manque peut-être, Hubert Védrine, non. Non, je m'attendais à un choix genre plutôt à la Maison Blanche ou le Bureau des Légendes.
Mais non, parce que justement, d'abord, je regarde très peu de séries.
Oui.
Donc j'ai eu du mal à répondre à votre question, je me suis forcé. D'ailleurs, j'avais répondu deux réponses. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais j'avais mis plutôt Downton Abbey.
Oui.
Alors ça, c'est encore une autre forme de nostalgie ou de reconstitution. Mais les séries politiques que j'ai vues, même quand elles sont magnifiquement faites, je ne sais pas du tout que ça a l'air prétentieux, mais ça m'a rien appris en fait.
Oui.
Parce que comme dans la
vie, j'ai besoin d'être au bureau, quoi.
Au bureau, puis j'ai fréquenté la Maison Blanche, et puis je sais comment ça se passe à Londres, et je sais comment ça se passe d'à peu près dans tous les lieux de pouvoir du monde entier. Mm-hmm. Et quand on a vu 4-5 présidents, en plus, on voit l'élément qui n'est pas lié à la personne qui est là, mais au système. Mm-hmm. Donc je reconnais que c'est incroyablement bien fait, parce que là. Le système américain pour fabriquer des séries en termes de professionnalisme est absolument top. Bon. Mais bon.
Donc, alors que Mad Men.
Mad Men, il y a une sorte de nostalgie avec évidemment les distanciations. On parle d'un monde qui a été complètement désintégré entre temps.
Ouais.
Donc, c'est une époque de mon enfance, mais c'est pas mon enfance non plus. Vous voyez? Donc, il y a une projection sur des États-Unis imaginaires en Technicolor, donc tout un mélange. J'aime bien le cinéma américain de cette époque-là.
Ouais.
Mais je me retrouve dans aucun personnage. Et puis, évidemment, c'est facile de retrouver les clivages entre le rôle des hommes, le rôle des femmes.
C'est, heureusement, les choses ont changé.
Non, non. Elles se sont retournées complètement, c'est ça?
Bien.
C'est l'inverse.
Terminons cette pop list familiale avec la chanson culte de Laurent Védrine. Et cette chanson, Laurent, c'est celle-ci.
À forcer l'allure, il arrive qu'on meure. Pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Mourir pour des idées de Georges Brassens, le choix de Laurent Védrine. Vous pourriez mourir pour des idées, Laurent ?
Je pourrais me retrouver dans une manifestation, être réprimé par un pouvoir policier et mourir par accident. Mais j'irai pas volontairement m'exposer à l'accident ou à la mort. En tout cas, je pense que je partage les idées de Brassens, qui est que c'est quand même un peu dommage de pas se laisser le temps de relativiser les passions, à moins que ce soit une nécessité de défendre son intégrité physique ou de défendre ses proches ou de combattre. Mais non, mourir pour des idées...
Et alors ce goût pour Brassens ?
Oh, c'était juste pour répondre à la popliste, en fait.
D'accord.
Sinon, j'aime beaucoup Brassens, oui, mais pas uniquement.
J'ai appris une chose marrante sur Brassens il y a peu de temps. En fait, il a été chassé de Sète, car c'était un mauvais garçon, figurez-vous, dans son jeune âge, alors qu'aujourd'hui c'est de la gloire locale, hein, c'est même une attraction touristique, mais il a été persona non grata.
Oui, mais ça c'est assez classique, que les anarchistes et les fauteurs de troubles, une fois qu'ils sont morts, sont célébrés et entrent au Panthéon.
Vous en avez parlé avec votre père ? Non, c'est des conversations à ce sujet.
Non, bon. Mais on pourrait en parler après.
Dans le livre, en faisant le livre, enfin, je sais pas si on va en parler après.
Bien sûr qu'on va en parler du livre.
Dans le choix des mots, le choix, la construction, il y avait ces discussions en arrière-plan.
Ouais.
On se mettait d'accord facilement, mais on pouvait hésiter entre plusieurs formules, plusieurs adjectifs.
On va y venir à Ulrich dans quelques instants. Je résume donc votre popliste commune, Marcel Proust, Orson Welles, Mad Men et Georges Brassens. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery, about lies.
Chaque fois qu'Odette raconte une histoire bête, Swann écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté, presque une admiration.
An important distinction to make is whether it's a good fake or a bad fake.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente.
Voilà une partie de la famille Védrine représentée dans ce mix de pop culture. Vous y retrouvez, messieurs ?
Vous croyez que ça peut faire un tube ?
C'est pas faux, peut-être le travailler encore un peu.
Oui, peut-être un peu plus de mixage. Hein.
Un peu plus de mixage, Ghislain Fontanus, je signale à notre réalisateur. Alors vous le savez, nous sommes vendredi et vous avez eu dans la playlist de la semaine de Pop les Pixies, Iggy Pop, The National, Nino Ferrer, Grace Jones et j'en passe, mais pas de Johnny Montreuil. Et comme j'ai promis de jouer un morceau par semaine jusqu'à ce que mon Johnny Montreuil entre dans la playlist de France Inter, et ben on l'écoute tout de suite avec cette chanson, Chiner la ferraille.
Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Ma gueule, elle te fait peur, toute fripée, mon accent qui vient d'ailleurs, tes mains, on se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Gratter pour un bifton tous les jours, gratter pour la maison, gratter de la lune pour des mouchoirs. Pour tous mes gosses et sans paplard, mes bifton et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Et si on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau chapter.
c'est comme ça, c'est mon affaire, des vis d'étrangle, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le dentier de ta grand-mère, la Rolex de ton père, je deviens fou, je vois te faire partout, je deviens fou, en faire et contre vous, je deviens fou, toujours chiner les mêmes escrocs, fou, pour trois louves et pompes de raccro, à vous messieurs dames, les prix de liberté, matez-moi mieux que ça, quand vous me voyez arriver, allez, je me nature, j'ai ma tire à réparer, en rêve en haut de quoi qu'un jour j'aurai pour lever. La ferraille dans vos beaux camions. Je m'en vais chiner la ferraille dans vos beaux camions. Oh. Pour la convertir en dollars dans vos beaux camions. Chiner la ferraille.
Pop, pop, pop. Antoine Decaune
et Charline Roux. Johnny Montreuil, comme chaque semaine dans Pop, 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 en guise de message slash menace aux programmateurs musicaux de France Inter. C'était chiner la ferraille. Mais revenons à nos moutons, comme on dit dans L'Amour et dans le Pré. Car aujourd'hui, nous allons parler d'Ulrich, la biographie non autorisée que viennent nous présenter Hubert et Laurent Védrine. Et commençons par la question qui détermine toute la suite. Qui, du père ou du fils, a fait découvrir Blake et Mortimer à l'autre?
C'est moi qui lui ai fait découvrir.
Incroyable.
Il connaissait
vous,
pas
Laurent,
du tout.
Le fils avait fait découvrir Blake et Mortimer
ça
à votre
le,
père.
Ça sent le mensonge.
Et lui, il disait que des trucs Rezer, Gabi, Manara.
Ah, d'accord. Ouais.
Mensonge.
C'est comme ça, non?
Oui, c'est une réponse qui défie la chronologie. Mais
d'accord. Elle donc, en fait, je renverse.
Elle est séduisante.
Non, donc ça vient de vous.
Je suis né avant.
Vous êtes né avant?
Avant lui.
Ah oui, avant lui. Bah, pas avant Blake et Mortimer, quand même.
Bon, alors... ouais, vous voyez bien que c'est pas clair, en tout cas.
Bon, alors rappelons pour les plus jeunes de nos auditeurs, qui sont Blake et Mortimer, Charline?
Le capitaine Francis Blake est un ancien pilote de la Royal Air Force, devenu directeur du MI5, et le professeur Philip Mortimer est spécialiste en physique nucléaire. En d'autres termes, c'est ni les chevaliers du ciel ou
D'accord.
des hommes brillants.
Ok, et pourquoi cette passion pour cette BD-là en particulier, plutôt que, je ne sais pas moi, pour Blueberry, Tintin, Barbarella, enfin... Il y en a tant. Pourquoi Blake et Mortimer? Qu'est-ce qui s'est passé avec Blake et Mortimer?
Dans mon enfance, dans ma famille, on lisait tout. Il n'y avait pas de séparation, comme faisaient les profs à l'époque. Il ne faut pas lire de BD, il faut lire des vrais livres. Mmh. On lisait de tout. Mmh. Et il y avait, quand on était tout petit, alors je parle de la génération, pas celle de Laurent, hein, on lisait par exemple Sylvain et Sylvette, ça me revient, c'était un truc tout petit. Puis il y avait Pif, il y avait des choses comme ça. Le journal de Mickey... Et donc, je me rappelle avoir découvert les Tintins, mais pas au début, pour des raisons d'âge. J'ai dû découvrir les Tintins au moment de Coq en stock, enfin, un truc comme ça, ou Objectif Lune. J'ai découvert Black et Mortimer au moment de la marque jaune. Mais il n'y a pas de choix, c'est des trucs enfantins, quoi. Mm-hmm. Et donc... ça, on se offre des albums, on les partage entre amis, on les lit, on s'excite. Ça m'a tellement excité que quand j'étais en quatrième, donc je devais avoir quelque chose comme 12 ans, je me suis concentré sur le fait de... J'écrivais, je dessinais pas mal à l'époque, j'ai un peu perdu cette capacité. Et donc j'ai fait une BD avec un groupe de copains. Il y avait un groupe de scénaristes, puis moi je dessinais à l'ancienne. Alors je faisais les trucs au crayon, puis après à l'aquarelle, puis ça fait que ça sèche, je fallait mettre de l'encre de Chine, tout ça. Bon, on a passé l'année, on a tous redoublé, la quatrième. Mais c'était totalement copié de Blake et Mortimer ou Tintin, en fait. Ouais, ouais. C'était de la pseudo-ligne claire, mal réalisée, mais ça montre une passion. Mais ça faisait partie de la culture, d'ambiance, c'est notre pop à nous. Quoi. Voilà.
Mais c'est exactement ça.
Mais c'est pas un choix.
C'est exactement ça.
C'est venu comme ça. Hein. C'était
mais
dans
on
le...
parle de la même chose, Hubert Védrine.
Dans l'air qu'on respirait.
Ouais.
Mais justement, vous parlez volontiers de votre amour pour la ligne claire. Qu'est-ce que cette esthétique a de si particulier à vos yeux?
Bah, d'abord, c'est lié à l'enfance, c'est lié à la découverte. En plus, c'est magnifique. Mm. C'est des vrais grands artistes. Mais Hergé est un génie, Jacob aussi. Hein. Bon. Mmh. Donc c'est magnifique, l'articulation du dessin, du texte. Il y a des images que je trouvais belles. J'ai jamais songé à opposer ça et puis tel ou tel grand peintre que je pouvais voir dans un musée.
Ouais.
Et ma mère peignait, c'est une famille plutôt artistique. Le grand-père était maître verrier, il y a une ambiance comme ça. Mmh. Donc je me suis jamais dit, c'est la ligne claire. Mmh. J'ai entendu parler du mot ligne claire, mais très 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 longtemps après. Mmh. Oui. Et simplement, donc... c'était... Puis après, il y a des BD qui me tombent des mains. Et il y en a d'autres que j'adore. Ouais. J'ai adoré beaucoup plus tard, par exemple, la série Les Sept Vies de l'Épervier.
Ouais.
Vous voyez, avec le dessin d'André Juillard qui a fait notre couverture, qui est formidable. Ouais. Mais il n'y a aucune théorie derrière, qu'il n'y a pas de choix.
Et vous, Laurent, donc, cette passion pour Blake et Mortimer, vous a été transmise par votre père, Hubert. C'est naturellement ?
On a vécu ensemble pendant un certain nombre d'années.
En tant que père et fils, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, il y avait à la maison une bibliothèque de bandes dessinées dans laquelle je pouvais piocher au gré des humeurs, puis au gré de l'âge, en fait. Mmh. Et donc les Blake et Mortimer étaient relativement accessibles, pas très loin de Alix, de Tintin, de Lucky Luke. Puis dans les étages supérieurs de la bibliothèque, il y avait d'autres ouvrages en fait que je pouvais consulter en son absence, parce que Hubert voyageait beaucoup, il était diplomate, il était toujours à Moscou, toujours à New York, donc pendant ce temps-là je pouvais
attraper les réserves,
les manaras quoi.
Vous aviez les réserves et les manaras.
Il l'a cité déjà.
C'est du propre, Hubert Védrine.
C'était une éducation très très libérale. On n'interdit pas, on laisse faire. Après voilà, moi j'avais pas de passion pour Blake et Mortimer, particulièrement. J'en ai toujours pas, d'ailleurs. J'aime beaucoup Elric, parce que dans
voilà,
ma vie...
Voilà, ça nous amène quand même au sujet du jour. Ce livre que vous consacrez, cette biographie imaginaire à Elric, qui est donc le méchant qui traverse toutes les aventures, enfin, sauf dans deux volumes, de Blake et Mortimer. Pourquoi cette fascination pour ce personnage-là? Pourquoi ce besoin de lui inventer une biographie?
Mais vous dites imaginaire, mais nous on dit c'est la biographie du vrai Elric.
C'est ce qui est marqué.
C'est quand même hallucinant. On a fait tout un bouquin pour vous dire que c'est vrai.
Bon, d'accord.
Et à chaque fois,
je retire le mot imaginaire.
Non, c'est une biographie non autorisée. C'est-à-dire que la famille n'est pas super d'accord.
La famille d'Elric n'est d'ailleurs...
Pas la famille, des forces styles qui sont restées, des réseaux elricains.
Oui.
Qui ne voit pas d'un bon œil la transparence sur ce sujet.
Elric n'est plus en pleine forme tout à fait aujourd'hui, non? Il est né au début du XXe siècle. Non,
oui, on ne sait pas exactement, parce que l'état civil en Estonie n'est pas clair, mais
voilà.
Vers 1904, 1905.
Donc c'est plus le perdreau de l'année, on va dire.
Non, bien sûr, mais d'abord, on ne sait pas. Il a probablement et peut-être des héritiers. Moi, je viens de passer 3 semaines en Afrique et je vous assure que j'ai bien fait de partir, parce que depuis que le bouquin est sorti, il y a quand même des signes que ça ne plaît pas à tout le monde.
Ah oui, carrément.
Je ne sais pas pour mon père, mais...
Vous êtes suivi ?
Non, mais il y a des indices, il y a un certain nombre de faits convergents comme ça, en bas de chez moi, il y a eu des accidents, un incendie suspect juste à côté.
Je détourne l'attention en parlant de géopolitique. Mais c'est
je comprends très bien.
Mais est-ce qu'on doit en déduire que vous faites partie des lecteurs qui considèrent que dans une bonne histoire, le méchant est presque plus important que les héros ?
Mais il y a méchant et méchant. Il se trouve que si vous revenez au monde, à la bande dessinée, notre thèse, c'est que Jacobs a connu le vrai Elric, s'est inspiré de lui en partie, pas complètement. Il y a beaucoup de morceaux de la vie d'Elric que nous développons, nous, après enquête difficile, qui sont pas dans les albums. Puis par ailleurs, il a inventé des choses à lui. Bon. Il aboutit à un méchant qui est quand même intéressant, parce qu'il est résilient, comme on dit aujourd'hui. Il revient, c'est comme dans Balzac, il y a le personnage qui tourne. Alors qu'il y a plein d'autres méchants dans le monde de la bande dessinée, d'auteurs géniaux, mais qui se sont inspirés de personnages réels. Par exemple, Conan Doyle s'était inspiré de personnages réels, et pour Sherlock Holmes, c'est pour Moriarty, etc. Il y a toujours des gens derrière. Et ce qui nous a mis sur la piste, c'est que Jacobs lui-même est toujours resté vague là-dessus. Vague et confus. On s'est dit, il cache quelque chose, il faut aller creuser. Si on regarde les autres méchants, ils sont moins intéressants, en fait. Ceux de Hergé sont moins intéressants. Qu'on pourrait faire un lien avec Spontz. Non, Tintin.
Peut-être, mais je voulais ajouter quelque chose pour vous répondre directement. Est-ce qu'il faut toujours un bon méchant? Finalement, les histoires ou la vie, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours une espèce de dynamique, en fait. On n'aura pas de désir sans éloignement. On n'a pas de gentil sans méchant. On n'a pas de... Moi, je veux pas prêcher le...
On s'ennuie, quoi. Non,
mais surtout
on s'emmerde avec des gentils. Et puis, en plus, Blake et Mortimer tout seul, franchement, le tweed, les petits salons, le thé, ça n'a aucun intérêt.
Laurent, vous lui trouvez même une certaine noblesse.
Bah, déjà, il est noble. À la base, il est noble.
Franchement, non, dans la pratique de son art, je mets des guillemets en l'air, ça se voit pas parce que c'est de la radio, mais.
Bah oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait quand même la capacité à se faufiler, à changer d'identité, à fréquenter tous les milieux, hein, que ce soit les milieux populaires dans le nord de la Hongrie, comme la haute noblesse allemande, polyglotte. Enfin, c'est assez magnifique. Et finalement, est-ce qu'il est du bon, du mauvais côté de la force? Je pense que vraiment, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'il était libre.
Et d'ailleurs, à la fin, il y a une scène qu'on raconte, une rencontre avec Ulrich, très vieux, dans la fameuse clinique cachée dans les Alpes, avec George Lucas. Ils ont un échange sur Dark Vador. Ouais. Non, mais Ulrich dit, vous avez compris qu'on peut pas être entièrement bon ou entièrement méchant, en fait.
Bah, cela dit, quand Lucas nous a raconté ça, il avait promis de nous renvoyer les preuves, en fait.
Oui. Il n'a pas fait.
Non, il l'a toujours pas fait, mais je l'ai relancé il y a encore un mois, avant que le bouquin sorte. Mais on ne sait pas.
Il n'y a pas de nouvelles pour l'instant.
On verra.
Dites-moi, je comprends bien le point de départ, c'est-à-dire cette fascination pour l'œuvre de Jacobs, cette envie d'écrire une biographie de ce personnage, Ulrich, et de montrer qu'en fait, il y a une trace du véritable Ulrich dans l'histoire, que tout ça n'est pas juste un jeu de miroir. Comment est-ce qu'on s'attaque à un chantier pareil?
En fait, on a activé chacun nos réseaux. Moi, j'ai pas les mêmes réseaux qu'un ancien ministre, donc j'ai activé des réseaux qui sont plus liés au journalisme, à l'ethnologie, à l'anthropologie, enfin des gens de terrain que j'ai contactés dans un certain nombre de pays. J'ai fait des enquêtes aussi dans des fichiers documentaires, dans des archives. Et puis j'ai fait du recoupement. J'ai recoupé mes sources, j'ai vérifié, j'ai parlé à plusieurs personnes et en tout cas moi j'ai procédé comme ça. Et il y a eu quand même un certain nombre de situations où ça ne pouvait être que lui.
Et je précise qu'en plus de cette biographie non autorisée d'Ulrich, Blake et Mortimer, La Vallée des Immortels, tome 2, signé Sant, Berserik et Van Dongen, sortira le 22 novembre chez Dargaud.
Bien. Laurent, content du bébé? Je parle d'Ulrich.
Oui, moi je suis plutôt content. Je suis toujours un peu inquiet. J'attends de voir si
le public va suivre. Et surtout être sensible à votre mise en garde.
Non, je suis pas inquiet pour le public, mais on s'est dit, en fait, on s'est lancé dans cette aventure sachant que ça pourrait avoir
des conséquences.
Des conséquences. Et vous parliez des méchants, des personnes machiavéliques. Moi, je sais qu'ils existent, pas forcément dans le milieu diplomatique, mais qu'il y en a, par exemple, dans le monde de l'édition.
Des médias.
Dans le monde des médias, par exemple.
De la radio, particulièrement.
Oui, particulièrement, oui. Enfin, je sais pas autour de cette table, mais.
Non, là, j'en vois pas, mais.
Voilà, j'ai une certaine expérience, et d'ailleurs, s'ils m'écoutent, c'est qu'ils sachent que, voilà, c'est un message
que vous les connaissez.
Oui, oui, bien
des
sûr.
Des gens avec des rires sardoniques, vous voulez dire?
Oui, d'accord. Oui. Bon, très bien. Ça s'appelle Ulrich, la biographie non autorisée de Hubert Védrine et Laurent Védrine, et c'est édité chez Fayard, et c'est évidemment très recommandé par Pop. Ne bougez pas. Messieurs, j'en ai pas fini avec vous. Est-ce que vous savez faire ça?
Moi non, j'y arrive pas.
Non. Ah, Laurent, c'est un joli pop. Hubert, vous voulez même pas essayer?
Mais c'est pas la même culture du tout. Comment on fait en fait?
Mettez votre doigt dans votre bouche. C'est un petit début. Voilà, Laurent l'a fait à votre place.
Tu peux y arriver.
Vous inquiétez pas, juste pour lancer les pop.
Il s'est sifflé, par contre.
Hunters, c'est le titre de la prochaine série réalisée par Jordan Peele, à qui on doit entre autres Get Out. Et pour jouer les chasseurs de nazis, le réalisateur a embauché Al Pacino, qui a un message.
This is not murder. This is mitzvah.
This is not murder, this is mitzvah. Autrement dit, ce n'est pas un meurtre, c'est un commandement, dit-il en faisant une croix sur un mur, pleine de photos de SS. Et la série Hunters arrivera courant 2020 sur Amazon Prime.
Voyage programme aujourd'hui et Pop Airlines vous emmène tout droit au Japon à la découverte de Kanzangumi, un groupe traditionnel s'attaquant à des chansons qu'ils sont moins, à la star de celle-ci. Vous aurez reconnu ou pas d'ailleurs Shake It Off de Taylor Swift, arrangé à la sauce nippon. C'est à retrouver sur la page de Pop sur franceinter.fr.
5 épisodes, 5 histoires, 5 créatures, le tout pour vous faire frémir. C'est le projet des Dark Stories, imaginé par François Descraques et Guillaume Loubrano. Ambiance qui fait peur.
Ta mère a toujours refusé que je te parle de ces choses-là.
I can tell you stories, scary stories.
Je vais vous montrer quelque chose, mais ça va pas vous plaire.
Believe me, it would be good.
Il nous observe.
Dark Stories, c'est très réussi et c'est sur France TV /
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Al Pacino.
Non, Ulrich.
Ah, je ne l'avais pas.
Le vrai Ulrich, c'était la voix du vrai Ulrich là, qui vous a fait. Oui, c'est moi. Voilà. On parle maintenant de jeux vidéo et de pop culture dans la suite de Popopop avec la chronique de Roland Crowe juste après le rock de Jeff Lynne's Electric Light Orchestra et ce morceau Time of Our Life. Time of Your Life, of Our Life. Cet extrait du tout nouvel album intitulé From Out to Nowhere. C'est signé.
Of which life?
C'est signé Jeff Lynne's, le leader de l'Electric Light Orchestra. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon, comme dirait Hubert Védrine. Et nous sommes toujours en compagnie d'Hubert et Laure Védrine. Non, ça c'est Laurent. Et vient de nous rejoindre notre Ulrich à nous. Eh oui. Ronan Crowe.
Bonjour.
Bonjour Ronan. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de Game Boy, c'est bien ça?
Non, Antoine, non, ça a un petit peu évolué depuis.
Ah bon?
Je rebondis sur l'actualité de vos invités. Vous faites donc la biographie d'un méchant. Alors, si vous voulez faire un prochain tome, moi je vous propose d'autres méchants. Hein. Je vous propose Charline Roux qui perd un jeu vidéo. Hein, c'est un méchant. Ou Antoine de Cône qui ne sait pas faire redémarrer son iPhone. Ouais. Vous verrez, ça a une biographie parfaite.
En fait, c'est un bon début.
Ouais. C'est un bon début, c'est un petit peu travaillé. En fait, ce qui m'intéresse avec votre travail, c'est que quand, en faisant la biographie imaginaire ou non d'un méchant, vous plongez au cœur de la mythologie, de ce que c'est une mythologie. Puisque finalement, votre travail, c'est de plonger un pied dans le travail de Blake et Mortimer et un pied dans la réalité et comment les deux se croisent. Et cette idée de mythologie, finalement, je me suis posé la question, mais c'est quoi les mythologies aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait mythologie? Alors évidemment, vous savez, Antoine, que je suis un très bon élève, donc je me suis replongé chez Roland Barthes. Roland Barthes qui a écrit dans les années 50 un livre qui s'appelle Mythologie, qui est un livre fameux que vous lisez tous les soirs, Antoine.
Évidemment. Pas tous les soirs, mais un soir sur deux.
C'est vrai. Et donc, dans le texte de Roland Barthes, ce qu'on apprend, c'est que les mythologies, selon Roland Barthes, qui est très proche de la pop culture, c'est ce qui fait société. C'est finalement ce qui nous relie, ce qui crée un lien entre les gens, la pop culture étant évidemment partie prenante de la mythologie. Mais c'est quoi une pop mythologie? Eh bien, aujourd'hui, sort un jeu vidéo qui est partie prenante de cette pop mythologie. C'est un événement, c'est un pop événement. Ça s'appelle Death Stranding et ça ressemble à ça.
Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi.
Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout.
Le monde est toujours brisé. Toujours en morceaux.
Comme le reste. Mais on est encore là. On avance, tant bien que mal.
Renan, c'est très clair, mais j'ai rien compris.
Très bien, c'est un jeu vidéo sponsorisé par Prozac, évidemment, que vous venez d'entendre. Alors, ce jeu est un événement, pourquoi? Parce que c'est le retour de Hideo Kojima, le grand auteur de jeux vidéo. Alors, je sais, Antoine, calmez-vous, Hideo Kojima, vous êtes fan, vous avez dévoré la saga Metal Gear Solid, évidemment. Charline aussi, vous adorez Metal Gear Solid.
Pour de vrai.
C'est vrai, c'est pour ça que je m'adresse à elle, évidemment. Alors, qui est Hideo Kojima? C'est un auteur absolu, c'est quelqu'un qui a une vision totale du jeu vidéo, qui le pense comme un art cinématographique, et ça tombe bien parce que son Death Stranding a des images complètement dingues. En fait, les acteurs, puisqu'on parle d'acteurs de jeux vidéo, bah par exemple, il s'appelle Léa Seydoux, ça vous parle, ça, Matt Mikkelsen, Guillermo del Toro, et aussi l'acteur principal, le personnage que vous jouez, Norman Reedus, qu'on a vu dans Walking Dead. Déjà ça, c'est très impressionnant, et déjà ça, ça crée une mythologie, c'est-à-dire de voir ces acteurs de cinéma devenir des personnages de jeux vidéo. Après, de quoi ça parle? Eh bien, l'idée, c'est que Hideo Kojima crée un nouveau type de jeu qu'il appelle le Strand Game. Alors, Strand en anglais, Antoine, je sais que vous êtes bilingue, ça veut dire quoi?
Ça veut dire debout.
Non, pas stand, strain. Oh non, mais vous avez raté votre bague, vous.
Et en plus, mais vous tous... malade, faut très gentil.
Le brin, le fil, ce qui relie. Et c'est tout le sujet de ce jeu, puisqu'il s'agit de faire société. Ça se passe dans un monde apocalyptique, dans une sorte de fin du monde, où vous devez réincarner la société et la reconnecter. Vous jouez une sorte de Uber, de personnage qui transporte des objets à travers des États-Unis complètement diffractés, et vous devez reconstruire la société. Ça, c'est le début du jeu. Parce qu'en fait, Hideo Kojima a décidé que ce jeu devait se découvrir. On devait en fait pratiquer la mythologie de Death Stranding pour pouvoir comprendre le jeu. C'est-à-dire qu'il demande à ce que on ne raconte pas de quoi parle ce jeu, parce qu'il faut faire l'expérience collective du jeu. Je vois que vous n'avez rien compris.
Si, si, je vous suis. Je, vous... Non, attends, je me demande si nos invités vous suivent aussi, Hubert, Laurent.
En quelque sorte, le principe, c'est qu'il faut passer son temps à jouer au jeu pour le comprendre.
C'est un beau résumé.
C'est complètement addictif, en fait.
C'est pas tant addictif que créatif aussi. C'est une découverte du monde, c'est l'apprentissage du monde. Mais si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, parce que eux non plus n'ont pas compris.
Vous n'avez pas laissé.
What are all these ghosts?
Those are the Death Stranding, Rick.
Oh, okay.
You know, we've been walking for a while, and I got this baby in a tube here.
Maybe it's some sort of crazy upgrade. Hold on, I've got an idea.
Hey, stop! Right, stop!
It's not an upgrade. Let's eat it.
What? We can't eat it. It's a baby.
Morty, what if it makes us run faster or jump higher?
Okay, let's eat the baby.
Mais qui veut manger un bébé?
Mais alors c'est qui? Est-ce que vous savez qui vient de parler?
Non. Non.
C'est Rick and Morty.
Mais bien sûr.
La série d'animation culte qui crée une mythologie et qui revient à partir de lundi pour une saison 4. Ils ont fait une publicité très ironique pour ce jeu, puisqu'en gros les deux personnages Rick and Morty racontent qu'ils ne comprennent rien à ce jeu et que le personnage du bébé qu'on doit transporter, bah pourquoi pas le manger en fait. Rick and Morty est une série essentielle qui elle aussi crée de la pop mythologie, parce que cette série, peut-être que vous connaissez, qui est diffusée sur Adult Swim, qui est un événement de pop culture, c'est-à-dire que tout le monde attend cette saison 4 qui revient, en tout cas les fans de pop culture. Ouais. Cette série qui raconte les aventures d'un grand-père et de son petit-fils, qui est une sorte de version socratique de la pop culture, puisque c'est un grand-père complètement cinglé qui emmène son petit-fils dans des aventures intergalactiques pour lui expliquer que la mort finalement l'attend au bout du tournant et que plus rien n'a de sens dans ce monde, donc autant se marrer. Déjà, on les adore, ces personnages. Donc, Rick and Morty revient lundi pour une saison 4. Et qui dit saison 4 dit événement, dit bande-annonce canon.
It's been way too long.
The smartest Rick and Mortiest Morty in the universe are back.
I'm not rated to climb something this sheer.
Look, you're the guy that wanted an epic adventure. I'm the guy with only one hover chair.
And things are pretty much the same.
C'était pas du Justice que j'entendais mais derrière.
Si, mais si, c'était du Justice. Si ça, c'est pas un événement pop, c'est disponible à partir de lundi, la saison 4 en US plus 24 sur Adult Swim. Il faut vraiment se plonger dans Rick and Morty. Alors je sais, un dessin animé, on fait un peu la tête. En fait, c'est pas du tout un dessin animé. C'est un précipité dadaïste de pop culture. Ça part dans tous les sens. Vraiment, vous allez voir que Rick est un personnage fabuleux qui vous apprend que l'existence n'a aucun sens. Ce qui est intéressant dans Rick and Morty et qui pour rejoindre cette question de la mythologie, c'est que la mythologie dans Rick and Morty, c'est l'apprentissage du monde et l'apprentissage des non-règles du monde. Évidemment, là, c'est des exemples américains ou des grands blockbusters. Moi, je vais vous proposer un dernier exemple de mythologie contemporaine, une série française fabuleuse qui s'appelle Les Grands, dont la saison 3 est diffusée en ce moment sur OCS, dont le sujet, c'est quoi ? L'apprentissage, l'adolescence. Et c'est là où on se crée ces mythologies. Cette série magnifique diffusée sur OCS se termine. Il faut absolument découvrir Les Grands saison 1, 2, 3. Vous verrez ce que c'est que d'apprendre le monde avec ses grands.
Merci, Renan.
Ben, de rien.
Vous avez mis l'eau à la bouche. Hubert Védrine, je vous observais et écoutez attentivement la chronique de Renan Cros. Ça vous a donné envie d'aller jeter un coup d'œil du côté des jeux vidéo ?
Je pense que ça décrit assez bien le monde tel qu'il résulte de la pratique généralisée de ces jeux, en fait. Donc, c'est une explication qui tourne sur elle-même. Et il y a une part assez considérable des gens de... Quel âge vous avez, vous ? Vous êtes jeune ?
Je ne dirais pas mon âge, je suis comme 42.
Entre 28 et 32 ans.
Non, peut-être. Mais moi, si j'ai réussi à convaincre Hubert Védrine de regarder Rick and Morty, j'arrête cette émission, c'est bon, hein, j'ai fait mon travail. Hein.
Vous allez lui donner le lien,
mais
s'il
oui,
vous plaît.
Mais venez à la maison regarder Rick and Morty, ça va beaucoup vous plaire.
Bon, merci infiniment à tous. Nous sommes vendredi, et vendredi, ce n'est pas seulement le jour du poisson à la cantine de France Inter, c'est aussi l'arrivage du grand n'importe quoi. Ah, livré en chalut. Aujourd'hui, aucun lien de causalité avec la cantine, j'espère.
When again a beast of flies?
Chers élèves, j'ai ouï dire que l'un de nos professeurs d'anglais était un imposteur. C'est pourquoi, en tant que directeur de cette prestigieuse université, je tenais à vous dire publiquement que je ferai tout mon possible pour démasquer ce salopard. Car c'est un scandale. 289 754 327, 289 754 327, 289 754 328. Et ben voilà, j'en étais sûr. Il me manque un poil. N'importe quoi.
Et tout de suite, un nouvel épisode de Brian Lalouse.
Scénariste, quoi, merde!
Faites
chier, quoi!
Merci Alexandre Véret, le grand n'importe quoi, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Bien, passons du grand n'importe quoi à Neil Young pour remettre un peu d'ordre dans cette émission. Un extrait de son tout nouvel album Eternity.
Of love, the birds were singing in the sky above, the dogs were barking and the deer were free, and we were living in a house of love. Woke up this morning in a house of love. Oh, fortunate me, I hope we're living in a house of love. Thank you. The train of love was rolling by. I reached over and touched your hand. Waiting on the train.
Neil Young dans Pop Pop sur France Inter, c'était Eternity, extrait du tout nouvel album Colorado. Voilà, merci à vous Hubert et Laurent Védrine de nous avoir rejoints dans ce studio. Je rappelle la parution d'Olric, la biographie non autorisée qui est éditée chez Fayard, un livre intensément Pop Pop Pop. Merci mon cher Renan Cros de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, j'insiste. Oui. Merci aussi à l'équipe. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Kevin Pelot, Aurélien Espan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale, Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, Louis Garrel et Rimka.
Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis.
Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos espionnage sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Je t'ai reconnu, Fantomas.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.